9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 10 minutes, votre libre antenne. Mais d'abord, la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Avec une lettre, une interview et un communiqué à la une ce matin. La lettre écrite par Emmanuel Macron au président sénégalais, le chef de l'État français, y reconnaît que la France a commis un massacre à Tiaroy en 1944, quand les troupes coloniales françaises ont tué au moins plusieurs dizaines de tirailleurs. Le président sénégalais salue un pas important vers la vérité. L'interview, c'est ce même Bassirou Diomaye-Faye à propos des soldats français aujourd'hui sur le sol sénégalais, mais qui n'ont pas vocation à y rester, assure le chef de l'État à Dakar. Et le communiqué, c'est celui du Tchad qui annonce mettre fin aux accords de défense qui lient historiquement le pays à la France. Question de souveraineté et décision mûrement réfléchie, assure le ministre des Affaires étrangères, N'Djamena. Dans ce journal également, la visite du président nigérian en France et l'extradition normalement aujourd'hui de l'Italie vers la Belgique de la chanteuse malienne Rokia Traoré. Emmanuel Macron invoque les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays et le devoir réciproque, je cite, de vérité et de justice. Dans un courrier qu'il a adressé à son homologue sénégalais, le président français parle donc de massacre pour les événements du 1er décembre 1944 à Tiaroy, ce jour où les troupes coloniales françaises ont tué au moins plusieurs dizaines, sans doute plusieurs centaines, de tirailleurs qui réclamaient le paiement de leurs soldes après la Seconde Guerre mondiale. Vérité et justice, c'est justement ce que réclame le Sénégal à Dakar. Lalisa Vestorov.
Le Sénégal, comme la plupart des historiens du pays, en est convaincu. La France dissimule toujours des informations cruciales concernant ce massacre. Il y a quelque chose qui a été caché, a affirmé le président Bassirou Diomaye-Faye dans une interview accordée à France 2 hier. Parmi les pièces centrales qui manquent, la liste des appelés le matin du 1er décembre, une carte indiquant où les tirailleurs tués ont été enterrés ou encore une liste des victimes essentielles pour répondre à cette inconnue du nombre exact de morts. Ces documents existent-ils? C'est tout l'enjeu de la mission d'historiens et d'archivistes sénégalais qui pendant 2 semaines ont éclusé les fonds documentaires existants. Pour la France, la mise en place rapide de cette mission est la preuve qu'elle n'a rien à cacher et qu'elle est engagée à aider à la manifestation de la vérité. Nous nous devons vérité et justice, a écrit Emmanuel Macron au président Bassirou Diomaye-Faye, une exigence partagée par le chef d'État sénégalais qui estime que tant que la vérité ne sera pas totalement faite, ce massacre restera, je cite, une plaie béante dans l'histoire que la France et le Sénégal ont en partage. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Autre sujet évoqué hier par Bassirou Diomaye-Faye dans l'entretien qu'il a accordé à plusieurs médias français, la présence de soldats hexagonaux. Ils sont aujourd'hui environ 350 au Sénégal et ils n'ont pas vocation à rester, estime le président sénégalais. Il prend en exemple la coopération avec d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine qui se passe bien, dit-il, et qui n'ont pas ces pays de base militaire au Sénégal. Avenir des soldats français en suspens également au Tchad. Hier, quelques heures seulement après la visite du chef de la diplomatie française, N'Djamena a annoncé mettre fin à l'accord de défense qui lie le pays à la France. Le Tchad qui en fait une question de souveraineté et qui veut parler d'évolution plutôt que de rupture. Magali Lagrange.
Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, peut-on lire dans le communiqué. Un tournant qualifié d'historique, 66 ans après la proclamation de la République, le Tchad met donc fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, tempère le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le Tchad veut évoluer, mais la France reste un partenaire essentiel, poursuit Abderrahmane Koulamala. Le communiqué précise d'ailleurs que N'Djamena reste ouverte au dialogue pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectées, affirme le Tchad, sans plus de précision pour le moment sur les implications de la fin de cet accord. Environ 1 000 000 de soldats français sont actuellement stationnés dans le pays. Au début du mois, l'envoyé personnel du président français pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, affirmait sur notre antenne que ni le Tchad, ni la Côte d'Ivoire, ni le Gabon ne souhaitaient le départ des Français.
Magali Lagrange, activité diplomatique française décidément intense puisque cette semaine, le président du Nigeria, Bola Tinubu, est à Paris. Au programme hier, rencontre avec Emmanuel Macron et avec des chefs des grandes entreprises des deux pays. Elisa Fabian.
Les lignes d'action pour l'investissement des entreprises françaises au Nigeria concernent aussi bien le domaine de l'énergie que des métaux rares et des minerais critiques, en passant par les nouvelles technologies ou les industries créatives et culturelles. Le président Emmanuel Macron a indiqué que plus de 330 millions d'euros de prêts seraient débloqués par l'Agence française de développement dès 2025 pour soutenir ces projets, auxquels s'ajouteront par la suite des prêts du Trésor. Des promesses saluées par le président Bola Tinubu, qui a rappelé de son côté la nécessité de créer des emplois pour la jeunesse nigériane et d'assurer la sécurité alimentaire de la population de son pays. Mais la relation se veut réciproque. La France est ainsi devenue le premier hub d'affaires nigérian en Europe, avec notamment l'implantation à venir d'une cinquième banque nigériane à Paris. Emmanuel Macron a également apporté un soutien plus politique à Bola Tinubu en encourageant ses réformes, pourtant controversées au Nigeria, et en assurant que la France souhaite voir plus de représentants des pays africains dans les grandes instances internationales.
Économie aussi en Côte d'Ivoire. À Abidjan se tient cette semaine le premier salon international des ressources extractives et énergétiques. La Côte d'Ivoire dans ce domaine, c'est de l'or, c'est désormais aussi du bauxite, du coltan ou encore du manganèse. Et Abidjan veut voir encore plus grand. Binta Diagne.
Les acteurs du secteur sont unanimes. Le code minier de 2014 a été consensuel et compétitif. Ce texte accorde un certain nombre d'avantages aux entreprises minières. Résultat, on est passé de 67 permis de recherche délivrés en 2011 à près de 189 en 2023. Un nouveau code minier est en train d'être élaboré. Hors micro, certaines voix expriment leur réticence à l'idée de voir les conditions, notamment fiscales, changer. Côté autorité, Seydou Koulibaly, le directeur des mines, reste plutôt serein.
Il y a toujours des choses à ajuster. Il y a le volet fiscal, parce qu'il y a 10 ans en arrière, la situation dans laquelle on était, on ne serait plus la même. Donc il faut essayer d'ajuster dans l'intérêt de toutes les parties.
Cette semaine, un nouveau gisement aurifère de rang mondial a été découvert dans l'est du pays. Il faut dire que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un cadre géologique favorable, comme l'explique Adama Soro, le président de la Fédération des Chambres des Mines de l'Afrique de l'Ouest.
La Côte d'Ivoire regorge plus de 35% des roches vertes, qu'on appelle les roches birimiennes, qui sont le couvert par excellence d'or. Pour vous donner une note de grandeur, un pays comme le Ghana, qui est le premier producteur aujourd'hui d'or en Afrique, n'a que 18%. Donc la Côte d'Ivoire a le potentiel de faire le double du Ghana en matière géologique.
Un fonds d'investissement minier a été officiellement lancé hier matin. Il devrait permettre de soutenir les entreprises ivoiriennes dans ce secteur. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, l'armée malienne qui affirme avoir arrêté 6 individus dans le cadre de l'enquête sur les attaques qui ont touché Bamako au mois de septembre. Attaque revendiquée par les djihadistes du Jnim et qui avait fait au moins 70 morts. Au Liberia, on apprend la mort de Prince Johnson, ex-chef de guerre, acteur majeur de la guerre civile dans le pays entre 1989 et 2003. Depuis, il s'était reconverti dans la politique. Il était dernièrement sénateur. Prince Johnson, qui est mort à l'hôpital à l'âge de 72 ans. Enfin, en Europe, c'est aujourd'hui que Rokia Traoré, la chanteuse malienne, doit être extradée de l'Italie vers la Belgique. L'Italie, où elle a été arrêtée au mois de mai dernier. La Belgique, où elle a été condamnée à une peine de prison sur fond de conflit autour de la garde de sa fille. À Rome, les explications d'Anne Lenir.
La bataille pour les droits de Rokia Traoré se jouera désormais en Belgique, a affirmé son avocate italienne, Maddalena Claudia Del Re, peu avant son extradition vers Bruxelles, après plus de 5 mois passés dans une prison italienne. Extradition autorisée par la Cour de cassation de Rome, qui a rejeté le 19 novembre le pourvoi de l'artiste malienne au motif qu'elle devait suivre l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne favorable à l'extradition. Cette affaire centrée sur la garde de la fillette de 9 ans qui vit au Mali, que Rokia Traoré a eu avec son ancien conjoint belge, Yann Gossens, soulève de nombreuses questions juridiques internationales. Selon Maître Del Rey, Rokia Traoré n'avait pas été informée du procès au tribunal correctionnel de Bruxelles en octobre 2023, à l'issue duquel elle avait été condamnée à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants, mais n'avait donc pas pu être présente ni être défendue par un avocat. Ce que Maddalena Claudia Del Re qualifie de grave violation des droits de la défense et du principe d'un procès équitable. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et à Rome, comme ici, à Paris, il est maintenant 9h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci Xavier Besson, bonne journée. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.